Bonjour. On espérait que Paul Bern soit parmi nous, mais bon, petit souci de logistique. S'il arrive, on l'accueillera avec plaisir. Alors, nous voilà à nouveau réunis pour une table ronde dont le sujet est imaginer à ma façon mes techniques d'écriture. Donc, ça va être un sujet technique. On a tous la capacité d'imaginer, de fantasmer, de rêver, mais nous ne sommes pas tous en mesure, nous n'avons pas tous le talent d'écrire, de rendre lisible par d'autres ce qui se construit dans nos têtes. Alors vous, comment vous faites? Je pense que c'est un peu le sujet. Quel est le ressort qui vous permet de passer de l'imagination à l'écriture? Quelles sont vos techniques? Vendez-les, donnez-les-nous. Parlons-en. Qu'est-ce qui a envie de commencer? D'abord, je vous présente tous les trois. Sylvie Lenné, principalement auteur de nouvelles.
Uniquement
auteur de nouvelles. Morgane Cossarieux, premier roman. Dans les veines. Karim Berouka, des choses différentes. Le dernier, je te laisse lire le titre.
Non, pardon. un recueil de nouvelles, les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables?
Voilà pourquoi je ne dis pas ce titre.
C'est un peu compliqué, je reconnais. C'est plus facile à écrire
qu'à lire. Voilà. Bon, alors, donc, deux auteurs de nouvelles, une auteure de premier roman. Est-ce que les techniques sont comparables, de votre point de vue? Sylvie, tu n'écris pas de roman, donc c'est un choix, c'est quoi le principe?
C'est à la fois un choix et une obligation, parce que je pense qu'on n'écrit pas du tout de la même façon des romans et des nouvelles. Moi, j'écris, je trouve déjà une différence très nette entre le fait d'écrire des nouvelles courtes et le fait d'écrire des novellas. J'ai fait les deux, et ça ne se travaille pas du tout de la même façon. La nouvelle courte, ça correspond à quelque chose qu'en gros, on a complètement dans la tête quand on commence à écrire. Alors, difficile de décrire le processus par lequel ça se met en place, parce que, en gros, ça s'impose un peu comme une évidence et ça sort un peu tout seul. C'est une situation très agréable. Ceci dit, il faut avoir la bonne inspiration de départ, donc c'est agréable, mais pas forcément très fréquent. De mon point de vue, une novella, ça se construit déjà beaucoup plus. En tout cas, moi, je suis obligée d'y travailler beaucoup plus et de construire. Ce que je fais, tu m'autorises dès maintenant à expliquer tout ce que je suis obligée de mettre en place pour écrire une novella. En général, j'ai besoin de me sécuriser. Alors, moi déjà, je n'écris que quand j'ai vraiment envie de raconter une histoire. Et pour que j'ai envie de la raconter, il faut qu'elle ait une vraie signification pour moi. Et pour que quelque chose soit significatif à mes propres yeux, il faut que ça véhicule des émotions. C'est ça pour moi qui est le moteur essentiel. Des émotions, des situations dans lesquelles il faut trouver une manière de comprendre la situation, de se la raconter, de lui donner un sens. Des situations individuelles compliquées.
Je me permets de te couper. Plus l'émotion que la simple imagination. Donc.
Pour moi, ça part d'une situation dans laquelle il faut inventer l'émotion qui correspond. Donc, je commence par travailler sur l'émotion que j'ai envie de faire partager. Et après, je mets en place la situation qui l'a provoquée. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai envie d'exprimer comme émotion intime. Et après, je fabrique, en général, par la convergence de différentes choses, la situation qui fait qu'on se trouve en face d'un choix, en face d'une contradiction, en face de quelque chose pour lequel on n'a pas de réponse évidente. On n'a pas de réponse éthique ou morale ou qui apparaissent comme une évidence. Et puis, j'écris un espèce de scénario où je me fais les grandes lignes de ce qui va se passer. Et puis, une fois que j'ai le scénario, je me sens bien, je commence à écrire. Et puis, mon histoire dévie complètement du scénario initial.
On passe aux autres et puis on reviendra à la technique. Karim, pour toi, quel est le moteur qui te pousse à l'écriture?
C'est un peu compliqué. Pas le même
comme le titre.
Ouais, voilà. Pas le même que Sylvie, mais je pense que je pense pas que les écrivains écrivent. Tiens. Voici notre quatrième invité.
Bienvenue.
Je pense que tout le monde a des manières différentes de concevoir l'écriture et puis aussi de la mettre en œuvre. Je peux dire que effectivement, entre nouvelle et roman, c'est pas le même, la même manière d'écrire. C'est, nouvelle est un truc qui est plus ramassé, qui doit être plus concis et qui permet aussi, à mon avis, d'avoir plus d'oser des choses qu'on peut peut-être pas tenir sur un roman, sur une longue distance. On peut expérimenter plus facilement, je pense. Après, tu parlais des novellas. Moi, je pense que c'est l'exercice le plus casse-gueule. Je trouve que, pour en avoir lu pas mal, parce que je bosse aussi chez Griffe d'encre sur les recueils, donc je reçois des novellas à lire et des recueils de nouvelles. La nouvelle, je vois beaucoup d'écrivains qui arrivent à garder le propos sur une petite distance, on va dire. Mais entre la novella et le roman, c'est vraiment difficile parce que la novella, elle doit se tenir. Ça ne doit pas être un début de roman, ça ne doit pas être un roman... Ça ne va pas être une longue nouvelle. Généralement, ce que je vois souvent, c'est que les novellas, c'est des nouvelles qui ont été tirées en distance. Parce que l'auteur se fait plaisir, parce qu'on se fait plaisir en écrivant quand même. Donc ça dure, et c'est trop long en fait. Et le roman, c'est quelque chose où on peut se permettre d'exposer, on peut partir sur les personnages, sur les situations, on peut monter l'intrigue. Sur la novella, c'est un peu plus compliqué, ça doit être... Bref, c'est dur. De toute façon, écrire, c'est dur. Je le dis, je répète. C'est plein de souffrances.
Ne le faites pas.
Hein, non, c'est pas ça.
Vous
ça
ne le conseillez à personne.
Voilà. Non, si, faites-le. Moi, je pense que tout le monde peut écrire. Il y a des gens qui sont effectivement plus doués. Je pense que c'est aussi du travail, c'est aussi de l'expérience. Et puis, personnellement, c'est un terrain de liberté, en fait. Je me retrouve avec une feuille blanche. Je peux dire ce que je veux. C'est-à-dire que... Dans ce recueil, il y a des nouvelles complètement différentes. Je peux travailler sur des émotions comme Sylvie, mais je peux travailler aussi sur des situations, essayer de travailler en tordant les archétypes, en prenant des... Par exemple, il y a une nouvelle avec un détective qui se fait engager par une bande de nains. Donc, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. On peut s'amuser, on peut aller plus loin. Enfin, c'est, je sais pas, pour moi, c'est un espace de liberté, donc pour se lâcher, quoi.
Morgane, pour ce premier roman, quelle est la technique ?
Bah alors moi, j'ai écrit un roman, j'ai écrit beaucoup de nouvelles aussi, bon, qui ne sont pas encore toutes publiées. Je vais me lancer à la novella, donc là, tu me fais très peur.
Allez, au boulot.
Pourquoi ce choix de la novella, justement ?
Parce qu'on me l'a proposé, et j'ai fait pourquoi pas, parce que j'avais pas envie d'écrire une petite maison d'édition qui me l'a proposé, j'avais pas envie d'écrire un roman, et je trouvais que la novella, c'était bien, c'était entre les deux, et c'était un défi que j'ai envie de relever, donc pourquoi pas. Mais moi, je déconseille d'écrire, parce que moi, je sais, ce qui me fait écrire, c'est la déprime. Donc, je peux écrire que quand je suis très triste, très mal. Donc, j'écoute de la pour écrire, j'écoute de la musique sombre, avec du synthétiseur. L'écriture, c'est très solitaire, hein, quand même. Enfin, c'est une vie assez bizarre. Donc, les moteurs de l'écriture, c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut. C'est. Ouais, être écrivain, c'est dur, quoi, c'est dur.
Mais, en tout cas, pour vous, c'est pas gay.
Ouais, c'est pas gay, non.
Paul, qu'est-ce qui vous fait passer de votre imaginaire à l'écriture ?
Déjà, il y a un instrument essentiel à l'écrivain, je sais pas si vous en avez parlé ici, c'est la douche. Vous entrez dans votre douche, je sais pas si ça marche. Et tout de suite, vous avez des idées qui commencent à venir. Non, ça vous arrive pas, vous ?
Non, moi, je fais du sport pour ça.
Moi, je chante.
Et le bain, ça marche très bien aussi. Et pourquoi... La question, c'était quoi ?
Qu'est-ce qui fait passer de l'imaginaire à l'écriture ? Quelle est la technique ? Comment vous projetez dans l'écrit à partir de votre imaginaire ?
Alors, je pense que les écrivains, enfin ceux qui aiment écrire, hein, plus exactement, sont des gens qui arrivent à voir, en posant leur regard autour d'eux, des idées d'histoire. C'est quelque chose d'assez fantastique. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si des gens ne sont pas comme ça. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je rencontre des gens où je vais dans des endroits et tout de suite, des idées d'histoire me viennent. Il faut absolument que je les écrive, ces histoires. Sinon, elles n'existeront jamais.
Alors justement, c'est une idée, une écriture immédiate. Sylvie nous parlait d'émotion tout à l'heure. Quand le besoin d'écrire se fait sentir, c'est suite à une idée qu'il faut coucher sur le papier immédiatement ou ça demande une gestation un peu plus...
Ça dépend. Moi, personnellement, il m'est arrivé d'écrire des histoires parce que je me sentais très mal. Je reconnais bien aussi le principe qui fait qu'on est dans une situation insoluble et qu'on se demande par quel bout la prendre. Donc, on la met en scène. Ça permet de se la raconter à soi-même autrement, de prendre de la distance. Et puis d'y introduire éventuellement de l'humour ou des tas d'autres ingrédients. Et puis, il y a d'autres situations plus légères où ça vient tout seul et où on n'a que le pur plaisir de... Moi, personnellement, ce que je ressens avec le plus d'intensité, c'est le plaisir qu'en fait, on pourrait tous s'offrir, y compris sans écrire, de s'immerger complètement dans une histoire qu'on se raconte. On pourrait très bien faire ça sans l'écrire, mais en pratique, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a autre chose à faire... Et devant une feuille, on est obligé de s'immerger complètement. Et cette contrainte qu'on s'impose parce qu'on s'est astreint à arriver à un résultat permet de s'offrir ce luxe immense de se raconter la vraie histoire qu'on a envie de se raconter à ce moment-là jusqu'au bout. Ceci dit, c'est frustrant, oui, parce qu'on n'arrive jamais à la raconter aux autres exactement en faisant passer ce qu'on voudrait. Donc c'est ça qui est pour moi un facteur de souffrance.
De ne pas réussir à immerger l'autre dans le même monde que celui-là.
C'est-à-dire, on ne sait jamais quel effet ça fait sur les autres, les mots qu'on écrit. Moi, personnellement, je me relis avec plaisir. Je le dis sans honte. J'aime bien relire des histoires que j'ai écrites il y a 15 ans. Elles me parlent. Je ne m'en souviens pas forcément très bien. Quand je les lis, elles me parlent à moi, personnellement. Mais c'est un peu normal en même temps. Je ne suis pas quand même quelqu'un de complètement différent de la personne que j'étais il y a 15 ans. Mais on est toujours complètement... On n'a aucune idée de la perception que les autres auront de la manière dont on décrit les choses. Moi, j'essaie de travailler beaucoup avec une des grandes règles qu'on a en littérature et en particulier dans les domaines de l'imaginaire, c'est... Ne jamais rien expliquer, montrer simplement. Ne pas raconter les histoires, mais les faire vivre. Moi, les histoires que je raconte, enfin non, les histoires que je mets en scène et que j'essaie de raconter souvent vues de l'intérieur, elles me parlent à moi, mais je ne sais pas du tout ce qu'elles racontent aux autres. Et quelquefois, j'ai des retours qui me surprennent totalement.
Paul, vous disiez que vous aviez besoin de raconter des histoires et que c'était ce besoin qui vous faisait écrire. Ça se passe comment ? Comment se passe la construction ? D'abord l'univers, d'abord les personnages, techniquement, comment vous...
Je me suis observé, j'ai essayé de voir si je suis une méthode, et en fait je me suis rendu compte que c'était différent d'une histoire à l'autre. Il n'y avait pas forcément de règles. Effectivement, il y a des histoires qui vous tombent dessus et vous avez tout de suite envie de les écrire parce qu'elles vous arrivent entièrement imaginées dans tous les détails. Et puis parfois, vous avez des histoires qui mettent du temps à accoucher. Alors vous passez une semaine, deux semaines, trois semaines à vous arracher les cheveux, vous dire il y a quelque chose à faire, mais ça prend pas, il faut que je la mette. Enfin là, je fais un plan, je note les idées, j'essaie de voir quel lien je peux trouver entre elles. Et elles ne se laissent pas faire, les idées, donc il faut les domestiquer, il faut les lier entre elles.
Un plan, un synopsis, une écriture, ou alors une écriture automatique, enfin automatique, c'est pas le terme, mais une écriture au fil de la plume, comment ça se passe ? Karim, pour des nouvelles aussi, on fait un plan ?
On essaye. Pour les nouvelles, pas forcément. Moi j'essaye de faire des plans. Généralement, ça sert pas à grand chose parce que, en fait, quand je commence à écrire, j'ai d'autres idées qui viennent que je trouve meilleures que les précédentes. Alors c'est sûr que sur une nouvelle courte, bon, on va pas changer grand chose, mais en général le texte, même l'histoire, elle va évoluer au cours de l'écriture. Après c'est aussi un boulot de savoir tout reprendre depuis le début et de faire tout fonctionner. Pour un roman, c'est exactement ça, c'est une idée générale et puis on se lance dans le roman, puis tout d'un coup, ah, tiens, ce personnage, c'est bien ce qu'il fait, mais c'est un peu nul, en fait. Finalement, j'avais l'impression d'être génial, et puis... Donc, hop, il y a une nouvelle idée qui va se greffer, et ça va se développer, en fait. Enfin, en ce qui me concerne, hein, je ne sais pas comment écrivent les autres, mais moi, j'écris l'histoire en écrivant le roman. Donc, généralement, c'est un peu le bordel à la fin, ce qui demande quand même pas mal de retravail. Pour une nouvelle, ça peut être assez différent. Ça peut être surtout des nouvelles. Moi, j'ai écrit pas mal de textes pour des appels à textes. Donc, il y avait un thème. Donc, je savais à peu près ce que je voulais. Moi, après, de composer et d'essayer d'en faire quelque chose qui tienne la route et qui me satisfasse. Mais même si c'est... Même, je sais pas, à la fin des textes, on n'est jamais vraiment très content. Et après, on le lance, voilà, parce que ça plaît, on a des retours. Et là, comme dit Sylvie, des fois, c'est bizarre. Des fois, les gens comprennent... C'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils interprètent différemment. Et c'est assez intéressant, en fait. Donc, on a voulu faire passer une chose. Les gens ont perçu quelque chose de complètement différent, de pas inintéressant, mais se dire que bah, finalement, voilà, l'histoire qu'on a racontée, c'est pas forcément l'histoire que les gens vont lire.
Morgane, pour vous aussi, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe?
Bah, la nouvelle, c'est plus une idée et on peut partir en couille, c'est pas grave. Le roman, enfin moi, je suis d'abord, c'est des personnages qui me viennent, qui germent dans ma tête et qui occupent mon esprit, qui m'obsèdent, et des scènes. Et ça suffit pas pour écrire un roman, donc je suis obligée d'écrire un synopsis parce que sinon je bloque. Mon premier roman, j'avais écrit un très bon synopsis que j'ai quasiment suivi. Enfin, j'ai fait des petits allers-retours, j'ai développé des choses, les personnages se sont emparés de l'histoire, l'ont contourné. Mais il y avait quand même ce synopsis où je savais que j'avais un début, un milieu, une fin, je pouvais m'y retrouver. Mon second roman, j'avais pas fait ça, je me suis laissée complètement guidée par les personnages et au milieu, j'ai été bloquée et j'ai pu continuer. J'ai fait 6 mois où j'ai rien pu écrire. Et à partir du moment où j'ai réussi à trouver un synopsis, là, j'ai écrit toute la fin en 1 mois, quoi. Donc pour moi, un synopsis, c'est hyper important.
Sylvie, pour des nouvelles, synopsis, plan, qu'il est lié.
Ben moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si la nouvelle est un petit peu longue, j'ai besoin de me sécuriser avec un synopsis. Ceci dit, dès que j'ai commencé à rentrer dans l'histoire et qu'elle marche, je suis obligée d'en sortir parce que les personnages n'en font qu'à leur tête et puis les situations évoluent d'une manière qu'on ne contrôle pas bien. Quand il se passe ça, c'est que ça marche. Moi, personnellement, et je profite de l'occasion pour demander aux camarades autour de la table s'ils éprouvent les mêmes difficultés. Quand j'ai une nouvelle qui a vraiment du mal à sortir, je m'en aperçois tout de suite parce que je passe un temps fou à me demander avec quel point de vue il faut le raconter. Est-ce qu'il faut se mettre à l'intérieur du personnage? Est-ce qu'il faut se mettre un peu en dehors? Moi, personnellement, si je me laissais aller de plus en plus, je n'écrirais plus qu'à la première personne et au présent. Ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même des tas d'autres manières de raconter des histoires et s'enfermer là-dedans. Mais ce serait ma solution de facilité. Et de plus en plus, je me dis qu'il y a des histoires qui ne devraient pas être racontées comme ça, qu'il faudrait raconter autrement, et j'ai de plus en plus de mal à faire autrement. Mais la question du point de vue, quand on écrit, elle me paraît... très importante, peut-être même essentielle pour donner le ton de l'histoire et sa signification pour celui qui la partage avec nous.
Alors pour en venir à des choses un peu plus peut-être triviales, mais avant d'écrire, vous faites quoi? Vous faites de la recherche, vous allez chercher de la documentation, il y a des choses qui vous semblent techniquement importantes ou pas?
Non,
Paul, pourquoi pas?
On se drogue comme tout le monde. Quelle
idée. D'abord, avant d'écrire, je pense qu'il faut cultiver les idées, donc faut lire, faut sortir, faut rencontrer des gens. Ça, c'est avant d'avoir l'idée. Ensuite, une fois qu'on a une idée qui nous intéresse, oui, en général, il faut se documenter. Alors, ça dépend un peu de ce que vous écrivez. Évidemment, si vous écrivez un roman sur les cathares, il vaut mieux savoir de quoi vous parlez. Si vous écrivez de la fantasy dans un monde totalement inventé, vous aurez peut-être d'autres questions qui vont se poser. Comment est-ce que je construis ma magie? Comment est-ce que je construis un univers crédible? Donc c'est pas forcément de la documentation, mais quand même falloir une certaine réflexion. Mais moi j'aime beaucoup me documenter, j'adore, parce que on commence sur une idée et puis on s'aperçoit que c'est absolument pas possible techniquement parce qu'on n'y connaît rien, mais en fait un cheval ça fait pas du tout ce qu'on avait pensé que ça pouvait faire. Donc on lit de la documentation, beaucoup sur internet, mais aussi en bibliothèque, et on trouve d'autres idées qu'on n'avait pas du tout imaginées, des anecdotes, des détails... Et donc ça enrichit beaucoup le roman au final, ou la nouvelle.
Oui, moi je suis d'accord, enfin, c'est hyper intéressant de se documenter.
Sur les vampires?
Sur les vampires, j'étais déjà très documentée avant d'écrire, justement. Mais justement, j'adore le... Je supporterais pas d'écrire quelque chose sur un sujet que je ne connais pas, parce que j'aurais peur d'écrire quelque chose qui a déjà été fait. Et j'aime énormément, en fait, tout l'aspect post-moderne de la chose, de faire quelque chose d'ultra-référencé. Et quelque chose... Enfin, ça se voit que... Enfin, mon premier roman, en fait, c'est une sorte de synthèse de tout ce qui a été fait. J'ai tout digéré pour faire quelque chose de... pas forcément de très original, mais qui sort quand même du lot, et tout en respectant les codes et en rendant un hommage à tout ce que j'aime et en faisant un gros fuck à tout ce que j'aime pas, quoi. Voilà.
Voyons, de plus. Moi, j'aime pas me documenter parce que je suis un flemmard et que quand j'ai une idée, j'ai envie d'écrire un... Quand j'ai envie d'écrire, ça m'emmerde un peu d'aller passer 15 jours à lire des bouquins. Et souvent, j'ai des idées en lisant des bouquins ou en regardant un film, ça peut arriver. Donc à partir de là, j'ai envie de me faire mon petit monde à moi. J'aime bien aussi détourner les archétypes. Donc, je n'ai pas besoin d'en savoir trop. Après, comme tu dis, si je veux écrire un livre sur les cathares, ce que je ne ferai pas parce que c'est des gens bizarres. Et que... Mais sur un sujet historique, ouais, tant qu'à faire, autant se documenter pour pas passer pour un... Enfin, on va pas dire de gros mots.
C'est déjà fait, quoi.
Ouais, pour un cathare. Mais non, mais après, chacun sa manière de procéder. Moi, je vais lire, par exemple, si je tombe sur un article sur les cathares, il y a un truc qui va me faire marrer. Hop, j'ai essayé d'écrire, par exemple, une nouvelle, mais j'essaierai pas de faire un truc fidèle historiquement. Parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Après, un autre auteur va pourquoi pas, essayer d'écrire l'histoire de je sais pas qui, Simon de Montfort ou tous ses petits copains. Comme toi, non ?
Moi, je me demande si c'est pas une des raisons pour lesquelles on est soit auteur de nouvelles, soit auteur de romans, parce que j'aurais dit à peu près la même chose que Karim. J'aime pas me documenter parce que je suis une flemmarde. J'aime mieux parler de ce qui me parlait à moi et qui a déclenché le fait que j'avais envie d'écrire une histoire. Ceci dit, je me documente un tout petit peu, mais uniquement pour travailler le vocabulaire. Parce que personnellement, je suis très très sensible aux mots, à tout ce qui porte des vocations. Et quelquefois, je ne suis pas très sûre de mon vocabulaire quand il est dans un domaine un peu spécialisé. Donc je vais chercher des mots qui, en fait, il suffit de quelques mots justes et précis pour donner beaucoup de puissance et de poids à quelques petites phrases. Donc voilà, c'est vraiment sur le vocabulaire que je
travaille. Le vocabulaire sert à la construction de la cohérence de l'univers.
Le vocabulaire sert à, non seulement à la cohérence de l'histoire, mais il aide, je pense, le lecteur à rentrer dans le jeu et à suspendre son incrédulité, selon la formule consacrée. C'est des espèces de clés, c'est comme disait Rudyard Kipling, nous sommes du même sang, toi et moi. J'utilise les mots d'un domaine avec lequel tu as des affinités ou qui te parle à toi, donc voilà, nous fonctionnons dans le même monde et je t'oblige à accepter le mien. C'est une manière d'obliger le lecteur enfin, de l'aider plutôt que de l'obliger à accepter l'univers qu'on met en place.
Justement, qu'est-ce qui fait que vous, votre imagination, elle se tourne vers des écrits de l'imaginaire ? Parce qu'on peut supposer que les écrivains de ce qu'on va appeler le terme qu'on aime tous, cette littérature blanche, en tout cas la littérature qui n'est pas la littérature de genre, on peut supposer qu'ils ont aussi de l'imagination quand même, pour écrire leurs histoires. Qu'est-ce qui fait que vous, ça se tourne vers l'imaginaire, vers un monde différent, vers un univers qui n'existe pas, vers une uchronie, vers un truc temporellement futur. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de l'exprimer dans l'imaginaire ?
Moi, je trouve que c'est plus simple pour écrire bien. Parce que quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas, c'est plus facile d'être un petit peu poétique dans ce qu'on écrit. Alors qu'en littérature généraliste, c'est très terre à terre. Et ben moi, je m'y essaye. Et donc, je parle de choses que je connais. Et c'est beaucoup plus dur de représenter la réalité par des mots que de représenter un imaginaire par des mots, je trouve. Donc c'est peut-être une solution de facilité de faire de l'imaginaire pour moi.
Paul ?
Alors, j'ai fait deux, en fait. Hein. J'ai écrit des nouvelles, surtout, qui n'étaient pas dans le domaine de l'imaginaire. Et je me suis aperçu que j'avais tendance quand même toujours à dévier vers le fantastique et que c'était ça qui me plaisait. Alors, pourquoi ça me plaît, par contre, ça, c'est une question psychanalytique, sans doute. J'en sais vraiment, on fiche trop rien. Mais effectivement, j'ai l'impression que la réalité se fit part et que j'ai envie d'ajouter tout de suite une touche de fantastique ou carrément tout un monde de fantastique pour que le monde soit un peu plus beau, un peu plus différent de ce que je vis tous les jours.
Sylvie, c'est ça pour vous, une sorte de réalité augmentée ?
Ben, pas tout à fait. D'abord, moi, la première raison, c'est écrire de l'imaginaire parce qu'on aime en lire. Je crois que c'est quand même le point de départ. Et puis, il y a autre chose, c'est que écrire en décalant un petit peu, c'est là encore pouvoir traiter de vieilles questions, parce que je crois que les problèmes qui se posent aux êtres humains sont toujours les mêmes. Enfin, je parlais d'émotions. Les émotions, on en a quand même un registre qui n'est pas illimité potentiellement, enfin, même s'il est vaste. Et moi, je m'ennuie quand même souvent en lisant de la littérature blanche, parce que j'ai quand même l'impression qu'on y lit toujours un peu la même chose. Et je pense qu'on ne raconte pas d'histoires fondamentalement nouvelles en se mettant dans le registre de l'imaginaire, mais qu'on renouvelle le regard qu'on porte dessus. Et quand on annonce au lecteur dès le départ que ce qu'on raconte relève du domaine de l'imaginaire, il est obligé de déposer, parce que ça lui servira peut-être plus à rien, tout ce qu'il a comme représentation dans sa tête sur le monde, tout ce qu'il voit comme étant l'ordre naturel des choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on doit faire, comment ses points de vue politiques, ses jugements sur la société. Il est obligé de mettre tout ça de côté parce qu'il ne sait pas où on l'embarque. Et du coup, je pense qu'on partage avec lui ce plaisir de repartir à zéro. On est tout neuf quand on se lance dans l'imaginaire.
Est-ce que c'est une façon de mettre à mal les préjugés, Karim, d'être dans l'imaginaire? Ça n'y parvient pas tout le temps. Hein,
Moi, j'en sais rien. Alors là, j'avoue que je lis autant d'imaginaire que de blanche. Et je crée un peu de tout. Aucune idée. Moi, j'aime les deux. Peut-être que ça me permet plus de rêver quand j'écris. J'écris des histoires un peu plus barrées, mais c'est pas vrai, parce qu'on peut très bien s'accorder beaucoup de liberté sans écrire sans rentrer dans le domaine de l'imaginaire.
Mais à partir du moment où on est dans la fiction, toutes les fictions se valent.
Après, c'est une question de goût, hein, mais je saurais pas répondre à cette question. Je sais pas, j'écris probablement parce que ça me plaît. Est-ce que j'ai pas essayé d'analyser le truc. On peut essayer l'année prochaine. Je promets de travailler.
Oui, merci. À nouveau, certains auteurs réussissent à travailler à plusieurs, à quatre mains, sur leurs idées, sur leurs écrits. Est-ce que pour vous, c'est une possibilité ?
Alors moi, non. Déjà, j'ai du mal à travailler avec mes deux mains.
Morgane, pas encore prête pour.
J'ai déjà fait ça sur un scénario avec un ami très proche qui avait le même genre d'idée que moi. Donc je ne suis pas du tout fermée à l'idée, mais bon, pour l'instant ça ne s'est pas présenté. Et je n'ai pas encore rencontré mon alter ego en littérature. Donc si un jour je le rencontre, pourquoi pas.
Paul, Sylvie ?
Bon, alors moi j'ai eu diverses tentatives sur ce principe. La plus significative, et je vais évidemment éviter de citer des noms.
Quel dommage.
Bernard Werber.
Nous avions le projet avec un camarade d'écrire ensemble quelqu'un qui avait une approche de l'écriture et un domaine de compétences scientifiques très différent du mien, puisque c'était un scientifique au sens science dure beaucoup plus que moi. Et il y avait une dimension astrophysique dans le récit qu'on prévoyait d'écrire, où sa compétence scientifique était très importante. Et il était au moins aussi stressé que moi à l'idée d'écrire en collaboration. Résultat, nous avons tous les deux essayé de nous sécuriser, on parlait de scénario, en écrivant un scénario complètement balisé, tout ficelé, où tout était prévu. Là, on s'est dit, ça ne suffit pas. Et on s'est mis à prévoir, à tout essayer d'imaginer, avant de commencer à écrire, qui étaient nos personnages, quel était leur vécu, leur histoire personnelle antérieure au début de l'histoire, quelles étaient les références poétiques ou littéraires, parce que Victor Hugo avait une place importante dans notre projet. On a, pour une nouvelle qui a priori devait faire, 30 ou 40 pages, on a travaillé pendant un an, on a bien dû en écrire 100 des pages de mail entre nous. Après, on avait tellement joué avec tout ce qu'il y avait autour de l'histoire, tout ce qu'on voulait y mettre, tout ce qui serait pas dedans, mais que nous, on savait pour en parler, que ça n'avait plus aucun intérêt d'écrire l'histoire et on l'a jamais écrit. Mais on a toujours nos 100 000.
Il faut publier les mails.
Paul, alors un truc plus efficace.
Ça me fait un peu peur ce que tu dis là, parce que je suis justement en train d'écrire un roman à quatre mains avec une amie.
L'auteur ne sait pas encore que c'est terminé.
Non, ça se passe très très bien, c'est très rigolo. C'est un peu long, parce qu'effectivement, on s'échange beaucoup de mails et on est tout le temps au téléphone. Et puis, on s'est dit justement qu'on n'allait pas faire de plans trop détaillés. Et à chaque chapitre, parce que chacun fait un chapitre, on se téléphone et on se dit « j'ai une nouvelle idée ». Ah, mais moi aussi, j'ai une nouvelle idée. Ça part dans tous les sens. Je ne sais pas trop où on arrivera. Mais en tout cas, c'est très, très rigolo. Mais il faut dire que c'était quelqu'un aussi que je connaissais très bien, avec qui j'avais déjà pratiqué ce qu'on appelle la bêta-lecture. C'est-à-dire, ces textes à elle, je les avais lus attentivement, j'avais fait des remarques. Elle a fait la même chose sur les miens. Et puis, on se connaissait depuis des années. Je pense que ça doit être très, très difficile à faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment très bien et qu'on n'apprécie pas...
Je me souviens, l'année dernière, Mercedes Laquais, ici même, disait qu'elle écrivait avec un pool d'autres auteurs et qu'en fait, elle confiait un personnage à plusieurs aux auteurs.
C'est conceptuel.
Hein. Ouais, non, mais c'était assez intéressant. Elle disait que du coup, chaque auteur gérait un personnage et que pour les dialogues, ça créait une dynamique. Et ils travaillaient sur un Google Doc et que ça créait une dynamique qui faisait avancer le roman d'une façon différente que quand
ce
elle...
Ce qui est marrant dans l'écriture, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Après, ça fonctionne pas toujours.
On va arrêter la tableau. Tout de suite, faites comme vous voulez.
Non, mais on peut avoir des idées complètement barrées comme ça. C'est pas sûr que ça fonctionne. Généralement, ça marche pas. Mais on a le droit de... Enfin, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des règles qui sont celles de la grammaire, quoi. Et encore, hein, on peut faire de nouveaux romans. Mais moi, je sais que j'ai essayé...
Alain Damasio dirait autre chose.
Ouais, mais c'est Alain Damasio, il a le droit. Il a vendu plein de livres. Moi, j'ai essayé une fois d'écrire un livre avec une copine qui écrit des bouquins. Et on s'est retrouvés souvent au café. On a bu beaucoup de coups, mais on n'a pas écrit une seule ligne. Hein. Bon, après, il y en a qui arrivent très bien. Il y en a qui font des carrières comme ça, tant mieux. Hein. C'est une question de fonctionnement, de rapport, de... Je ne sais pas, enfin...
Alors, moi, j'ai quand même une ou deux expériences réussies, mais pas en travaillant en parallèle, sur des nouvelles très courtes. En gros... Un des deux faisait un premier jet dont il n'était pas entièrement satisfait et faisait appel à l'autre en lui disant « qu'est-ce qu'il faut faire avec mon histoire ?» Et il y avait un deuxième passage sur l'histoire qui pouvait faire des changements très significatifs, mais on ne travaillait pas en même temps. Donc c'est une expérience de collaboration asynchrone. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait autre chose ? Je ne sais plus. Je pense qu'effectivement, il faut une grande confiance vis-à-vis de l'autre, parce que quand on est auteur et qu'on s'investit dans l'histoire qu'on écrit, on a quand même envie qu'il s'y passe des choses et d'y projeter des choses. Et accepter que l'autre prenne le contrôle et fasse dévier quelque chose qu'on avait en tête et vers lequel on était en train d'aller, ça peut être très frustrant aussi. Il faut accepter de lâcher les commandes. Ce qui est paradoxal, quand on est auteur, on a l'habitude d'essayer de les tenir le mieux possible. Donc, c'est un peu un mystère, la collaboration.
Mais ça peut être une expérience, enfin, de le faire ciment, de dire, voilà, bon, moi, je vais commencer sur ce personnage. Toi, tu vas le prendre, tu vas en faire quelque chose d'autre. Il va passer à Paul et tout ça, mais après, c'est un choix.
Peut-être qu'il faut accepter de se distancier un peu plus avec les histoires qu'on écrit que je ne le fais moi. C'est peut-être une question
de lâcher prise.
Moi, ça me rappelle la collaboration avec son éditeur aussi, parce que l'éditeur est quand même, c'est pas l'auteur, mais il apporte beaucoup de modifications, beaucoup de suggestions, il corrige et mine de rien, enfin c'est...
Tu veux dire que quelqu'un a corrigé ton livre ?
Mais oui, mais oui.
C'est qu'ils ont bossé pour une fois ?
Mais oui, ils ont bossé.
Est-ce que ça, c'est un moment facile pour vous, le moment de la correction et du passage à l'éditeur ?
Moi, j'adore ce moment-là.
Masochiste.
Vous avez quelqu'un qui est prêt à payer pour travailler sur votre roman que vous avez écrit, qui le lit et qui vous dit qu'il l'a aimé et qu'il va travailler avec vous sur ce roman. C'est magnifique, non ?
Et quand il dit qu'il n'a pas trop aimé, qu'il y a trop de choses, plein de choses à changer, tout ça, qu'est-ce qu'il se passe ?
Soit il est très diplomate, soit il a vraiment aimé, parce que ça n'est pas encore arrivé. Mais oui, si c'est le cas, je suppose que ça doit être terrible. On va en changer d'éditeur en ce moment-là.
Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, c'est pas parce qu'il a, il a tort, c'est pas, je lui fais confiance, hein, ça. Mais c'est juste que, une fois que j'ai réussi à écrire une nouvelle ou encore plus un roman, parce que c'est quand même un gros boulot, enfin, en ce qui me concerne, c'est un truc qui me prend minimum un an, et ben c'est fini, quand c'est fini, c'est fini. J'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de repasser 3 mois, ou 2 mois, ou 1 mois. Mais je suis un feignant, il faut le dire. Voilà.
On avait déjà compris avec la recherche.
Mais voilà.
Bon, et tout bêtement, vous écrivez dans quelles conditions ? Perdu au milieu de la montagne, avec un chat sur les genoux, en buvant des bières au café
Dans une hutte. Nu.
Morgane aussi ?
Ouais, toujours nu, oui.
Paul ?
Ah non, moi je suis trop frileux. Non, je veux tout simplement dans un endroit calme. Mais je me suis aperçu, en ayant une vie de famille assez remplie pour ma part, que, en fait, en ayant des plages horaires assez limitées où on est obligé d'écrire, on se dit, là, les enfants sont couchés, j'ai 3 heures avant de tomber de sommeil, on est peut-être plus efficace qu'en restant toute la journée à se dire, bon, j'ai une journée devant moi, je vais écrire. Donc, oui, il faut... L'organisation, c'est vraiment pas du tout mon fort. Donc, le fait d'avoir des plages horaires très précises, ça m'aide en fait à écrire.
Mais c'est ça, c'est... est-ce que c'est simple, ce processus-là ? Est-ce que c'est un boulot comme on va au bureau ou est-ce que vous le vivez autrement ? Non, Paul vient de répondre, mais.
Non,
mais
je crois qu'il y a des auteurs qui sont super disciplinés et qui arrivent tous les jours à travailler 5 heures. Ou, quand on lit les biographies des auteurs, il y a des gens, c'est un boulot. Il y en a d'autres. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Hein. Je me mets devant l'ordinateur pendant une semaine et je fais... et puis des fois, bah, ouais, des fois, ça marche. Mais bon, j'ai du temps à perdre. Enfin, mais je pense que... Moi, je ne sais pas comment vous bossez, comment tu bosses toi et comment Sylvie bosse. Mais c'est...
Allons-y.
Alors moi déjà, j'écris pas beaucoup, donc je ne dois pas avoir de bonne technique.
C'est mal.
Moi, personnellement, le problème, c'est que ça rentre pas bien entre une vie professionnelle très intense et une vie familiale assez chargée aussi et tout le reste. Donc déjà, j'ai pas de trou spontanément à consacrer à ça. Donc du coup, je n'écris que quand j'ai vraiment une histoire qui me tient et que j'ai vraiment besoin d'écrire, ce qui n'arrive pas si souvent. Le jour où ça se produit, bon ben voilà, je me débrouille. Mais je n'ai pas d'organisation régulière et je ne pourrais pas non plus travailler comme ça, je ne crois pas.
Moi, j'ai essayé l'organisation régulière, mais ça ne marche pas trop. Mon premier roman, c'était plus une sorte de... C'était intense, quoi, il fallait que je le fasse, c'était bien. Maintenant, bon, je sais que je sais le faire, donc je me dis, bon, bah, il faut que je le fasse, j'ai encore des histoires à raconter, il faut que je me mette devant ma page, mais... Bah, c'est vrai que je le fais, il y a des jours où je peux passer 2 jours entiers à écrire non-stop sans m'arrêter, mais et même des fois je reste 1 heure devant une page blanche et après ça vient. Mais c'est vrai que du coup on perd le plaisir d'écrire, on est là, bon, putain, je suis un boulot, je suis au bureau comme les autres, ouais super, je suis écrivain, mais en fait je me fais grave chier comme tout le monde et je m'éclate pas.
Et en plus t'es mal payé.
Et puis je suis pas payé en plus, donc grave quoi.
je vous ai tous vu faire le geste de devant la page blanche. Il y en a encore qui écrivent à la main ou
Ouais, moi aussi, moi j'écris à la main.
Non, pas aux deux mains, une seule main avec un stylo dedans.
Dans le métro, ouais.
Les notes...
Moi j'écris quasiment jamais à la main, sauf quand je passe. Et là, reprendre une feuille de papier et un crayon, ne serait-ce que pour écrire 15 lignes, ça débloque des choses.
Voilà une information.
Non, bah, c'est une question pratique en fait. C'est que un texte écrit rapidement à la main, comme et après il faut le retaper. Puis si on le retape, si on laisse passer trop de temps, on n'arrive plus à se relire. Et donc, non, mais je pense que c'est plus pratique. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire, quand j'étais jeune, j'écrivais des nouvelles que personne n'a lues et que personne ne lira jamais.
Quel dommage.
Bah, au début, j'écrivais sur des cahiers, quoi. J'en ai rempli plein comme ça, des cahiers. C'est super. J'ai des cahiers si quelqu'un. Mais après, j'ai découvert les machines à écrire parce que j'ai pas 12 ans. Et puis non, c'était chiant. Quand on sait pas taper à la machine à écrire et qu'on fait des fautes tous les trois mots, ben. Et après, j'ai découvert l'ordinateur. Merci. Et là, c'était le bonheur. C'était le bonheur parce que, bah, parce que quand on a fini le roman, bah, on peut le présenter. On n'est pas obligé de le décoder pour demander à sa maman de le taper à la machine parce qu'elle est sténo. T'as connu ça, toi? Non. Eux, ils sont trop jeunes.
Non, pas moi. Et est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous travaillez sur commande? Karim, tu nous en as parlé, mais non, mais est-ce que c'est nécessairement votre imaginaire personnel qui nourrit votre écriture, ou est-ce que on peut vous suggérer des choses, est-ce qu'on peut vous emmener sur des pistes différentes ou qui ne viennent pas de vous?
Moi, j'ai bossé une fois sur commande, c'est ça. C'est un bouquin qui s'appelle Cyclone, c'est chez Petite Bulle qui est un petit éditeur, mais c'est pas vraiment une commande, c'est une contrainte en fait. Mais c'est bon, voilà, on m'a mis. Il y a des illustrations qui ont été faites avant le texte. On m'a dit voilà, tu as des illustrations, tu as un thème et tu écris un texte et tu te dépêches.
Bah, c'est la seule chose que
j'ai fait plus ou moins sur commande, mais c'était pas. Et je trouve que c'est une. Enfin, c'était vraiment intéressant.
Du coup, ça ressemble au principe qu'on a tous connu à l'école de la dissertation, quelque chose, un sujet imposé, quelque chose qui.
Oui, c'est
qui,
ça, mais là, c'est un jeu, c'est une contrainte positive, on va dire. C'est quelque chose qui est motivant, la dissertation à l'école, merci. C'était gentil, mais.
Il y en a qui.
Après, commande, moi, je ne sais pas, on ne m'a jamais dit fais-moi un texte sur les petites fleurs vertes et les fées, et je te paye autant. Mais bon, ça existe, il y a des.
Sylvie, on peut commander à ses émotions?
Non, quand on vous commande, c'est sur un thème. Ça m'est arrivé plein de fois. On m'a vraiment proposé, quelques fois, de mettre dans des environnements très attractifs, souvent d'écrire des nouvelles sur des thèmes imposés. Donc, je suis plutôt gentille, donc je dis oui à peu près une fois sur deux. Et en fait, je vais jusqu'au bout, une fois sur cinq. Donc... un jour, on m'a proposé d'écrire un conte de Noël. Je voyais, a priori, ça ne me disait rien. Et puis, j'ai eu une idée qui, moi, m'a enthousiasmée. Et une fois que j'avais trouvé comment le traiter, donc je l'ai fait, mais ça avait 9 chances sur 10 de mener nulle part. Un jour, on m'a proposé de participer à une anto-érotique. Et là, l'exercice a été sacrément difficile et mémorable, et je me suis régalée en même temps. C'est des choses auxquelles ni l'un ni l'autre je n'aurais pensé spontanément, et du coup il en est sorti des nouvelles que j'ai eu plaisir à écrire et que je suis contente d'avoir écrit. Mais ça marche pas toujours, enfin moi les commandes je ne garantirai jamais a priori que je suis capable d'y répondre.
Paul, ça pourrait vous arriver?
Moi j'ai en partie appris à écrire avec des concours de nouvelles ou des appels à texte qui par définition pose un thème avec un nombre de signes ou de mots imposés. Donc l'exercice, il m'est assez familier. Mais évidemment, c'est pas vraiment de la commande, c'est-à-dire qu'on fait quand même un peu ce qu'on veut. Hein.
C'est la contrainte dont parlait Karim.
Voilà, la contrainte libère, paraît-il. Pardon. Si, il paraît que la contrainte libère l'imagination.
Ah, libère.
J'ai compris Iber.
Moi aussi, la
contrainte espagnole dont j'ai pas entendu parler.
Non, rien à voir là-dedans. Non. Non, je pense que c'est tout à fait possible d'écrire avec une deadline, avec un thème. Maintenant, si ça n'inspire pas, ben, faut refuser tout de suite, quoi. Ou assez vite, avant d'être payé si possible.
Morgane ?
Bah, là, récemment, j'ai accepté, on m'a fait un appel à texte directement. J'ai accepté, j'ai essayé et j'ai pas présenté la nouvelle que j'ai écrite à l'éditeur parce que j'avais trop honte, enfin... Donc, ouais, la contrainte, quand elle est très proche de mon univers, ça marche. Je produis des choses pas mal. Même des fois, j'ai des choses déjà en stock qui correspondent et qui font partie de mon univers. Mais c'est vrai que là, récemment, je me suis heurtée. Oui, non, enfin, quand c'est vraiment trop différent, j'arrive pas à produire quelque chose de bien, quoi.
C'était pas un contexte motivant, finalement.
Bah, si, j'ai trouvé sur le coup, ah oui, je devais le faire, machin. Puis je fais, oh putain, c'est vraiment mauvais ce que j'ai écrit. Donc, je n'ai même pas envoyé. Voilà.
Bon, donc, on peut dire que globalement, vous faites tous confiance à votre imagination pour l'écriture.
Moi, je me fais pas confiance.
Vous pourriez avoir la contrainte, vous pourriez avoir la commande, vous pourriez.
Bah ouais, là...
La contrainte et l'imagination, ça va ensemble, parce que la contrainte, ouais. Oui, bah, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas quelque chose qui construit, c'est l'imagination qui construit.
C'est quelque chose qui est motivant, même, je trouve, quand tu parles des appels à texte, moi j'en ai fait pas mal chez un éditeur qui s'appelait Oxymore. Et c'était vraiment motivant, c'était on donne un thème et maintenant essaie d'écrire une nouvelle. Et si possible, écris-en une bonne, parce qu'il y a 100 personnes qui vont le faire. Donc, oui. Si tu veux que ton texte soit choisi, il faut que tu aies une idée originale. Après, il y a des gens qui fonctionnent bien comme ça, d'autres qui n'arrivent pas. Donc, ben voilà, comme toujours, tout le monde n'écrit pas de la même manière.
Bon, ben voilà, je crois qu'on a conclu que chacun fait comme il peut et comme il veut.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Voilà. Merci à tous. Au revoir.
Au revoir, madame. Et vous pourrez remarquer que pendant l'heure qu'on a passée ensemble, il n'a pas plu. Ouais.
Ouais. C'était la contrainte.
Ouais. Voilà, on va y passer une semaine là.